Suivez Priorité Santé avec Sounou Bank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines maladies chroniques, on pense à l'hypertension, au diabète ou encore à la BPCO, sont de plus en plus connues du grand public. Certainement parce qu'elles touchent une proportion à la fois importante et croissante de la population mondiale. Peut-être aussi parce qu'elles affectent des activités de l'organisme, cardiaque, métabolique, respiratoire, dont on peut parler sans trop se dévoiler, sans susciter forcément des réactions de rejet, voire même de dégoût, sans toucher l'intime. Aujourd'hui, c'est d'une famille bien particulière de maladies chroniques dont nous allons parler dans cette émission. Et contrairement à celles citées précédemment, les MICI, autrement dit les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, entraînent des symptômes qui ne sont pas faciles à évoquer au cours d'une conversation de tous les jours. Douleurs, hémorragie intestinale ou rectale, diarrhée, inconfort digestif, maladies de Crohn et rectocolite hémorragique peuvent fortement impacter la qualité de vie des patients concernés. Même si en fonction des individus, des traitements et des facteurs dont nous allons parler au cours de cette émission, chacun, chacune vit sa MICI différemment. Diagnostic, traitement, accompagnement thérapeutique, compte tenu de cet impact sur le quotidien, vivre avec Crohn ou une RCH, c'est d'abord apprendre à cohabiter avec, un travail d'acceptation qui n'est pas forcément facile, surtout quand les symptômes se déclenchent à certains moments charnières de la vie. Journée mondiale des MICI, quels sont les principaux symptômes des deux maladies inflammatoires chroniques des intestins? Impact sur le quotidien, prise en charge pour améliorer la qualité de vie? On en parle avec nos invités, d'avoir avec nous en studio le professeur Yoram Bounik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de gastro-entérologie MICI assistance nutritionnelle à l'hôpital Beaujon à Clichy-la-Garenne. On va retrouver tout à l'heure en ligne du Cameroun le professeur Christian Dzeton. Il est gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala, également président d'honneur de la société camerounaise de gastro-entérologie. Un témoignage à suivre, ce sera celui de Frédéric Burguière, le leader du groupe Les Ogres de Barbac, avec Assetou Samaké. Frédéric Burguière, atteint d'une RCH et qui, au-delà des activités dans le rock, dans la musique, s'engage dans le secteur associatif auprès de l'AFA, l'association François Petit, également dans des défis sportifs. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez le docteur Catherine Solano, sexologue, qui va répondre à une question d'auditeur ou d'une auditrice.
Priorité santé sur RFI.
Journée mondiale des MICI. Pour commencer, avant d'aborder la question du diagnostic des symptômes, peut-être un conseil inattendu, non pas sur ce qu'il faut faire, professeur Bounik, mais plutôt éviter de faire quand on s'interroge sur certaines douleurs, certains problèmes d'ordre digestif. Je dirais surtout éviter Internet au hasard des mots-clés, hein, Crohn, RCH, parce que quand on va sur des forums, il faut le dire, ça fait peur.
Vous avez tout à fait raison, et une partie importante de la première consultation, si on doit porter un diagnostic de maladie inflammatoire chronique intestinale, et de repartir à zéro, et c'est-à-dire en général de rassurer. Un mot quand même, il faut savoir que il y a réseaux sociaux et réseaux sociaux, il y a des associations bien faites.
C'est pour ça, pas au hasard, il faut aller vers les bonnes.
Mais on a l'impression dans les réseaux, il faut toujours faire du sensationnel. Mmh. Et ce qu'on voit, ce qu'on entend dans ces maladies, en tout cas, fait souvent très, très peur. Mmh. C'est assez terrible. Et donc, il faut...
Parce qu'ils mettent plus en avant les complications qu'une évolution, par exemple, la prise en charge initiale.
Dans un grand pourcentage de cas, on va dire, on peut vivre parfaitement bien avec sa maladie et donc il n'y a aucune raison d'aller l'étaler. Et c'est plutôt quand on va très très mal qu'on a peut-être besoin de partager. Mais surtout, il faut savoir qu'il y a MICI et MICI, que si on voit 100 patients avec une maladie de Crohn, ben, il va y avoir 100 formes différentes, que chacun a plus ou moins la sienne, ça doit être personnalisé. Et ça, c'est un concept, un point très très important.
Alors, professeur Bounik, en termes de fréquence, qu'est-ce qu'on peut dire en 2022 au sujet des MICI? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant?
Oui, il est clair que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an dans une région donnée, et la prévalence, c'est-à-dire le nombre total de cas, continue d'augmenter.
On sait pourquoi?
le nombre de cas non seulement augmente, mais surtout chez les sujets jeunes. Mmh. Donc ces maladies qui surviennent plus tôt et plus tôt dans la vie et plus fréquentes dans certaines régions, c'est-à-dire en gros dans les pays occidentaux avec un mode de vie occidental, qui dit Occident dit pays industrialisé. Ça rejoint la question le pourquoi, le comment. Il est évident que l'occidentalisation du mode de vie est en partie responsable. Alors, dans occidentalisation du mode de vie, il y a énormément de facteurs.
Il y a l'environnement, il y a l'alimentation, il y a le stress.
L'environnement, l'alimentation, je retiendrai bien les deux volontiers. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, l'alimentation. Difficile, selon moi, de dissocier complètement ce qu'il y a dans notre assiette, l'interaction qu'il y a au niveau de l'intestin, avec le microbiote, avec la paroi intestinale et ces maladies qui affectent quand même principalement l'intestin.
Vous dites « je retiens », ça veut dire « on ne sait pas exactement aujourd'hui ».
On ignore la cause précise, mais comme il y a de multiples formes de maladies inflammatoires chroniques intestinales, il y a probablement de multiples causes. Mais le grand concept, alors on ne considère pas que ce soit des maladies génétiques. Ce n'est pas des maladies transmissibles, ce sont des maladies épigénétiques. C'est-à-dire qu'un facteur de l'environnement va agir sur un terrain peut-être un peu plus sensible, peut-être à risque, et déclencher une réaction immunitaire inflammatoire qui va entraîner des lésions. Et ensuite évoluer pour son propre compte.
Quand on dit inflammation chronique, hein, pour les auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec ce concept, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps en fait, se dérègle à des échéances précises ou ça intervient n'importe quand ?
Quand on dit chronique, c'est-à-dire que ça se prolonge dans le temps.
Au long cours.
On va imaginer une réaction, pour faire la différence entre une réaction inflammatoire aiguë et une réaction inflammatoire chronique. On a une bactérie pathogène, un mauvais microbe qui entraîne une infection de l'intestin. Le système immunitaire va se mettre en branle et va se débarrasser de cet organisme. Cet organisme ne sera parti, tout reviendra au niveau initial.
Comme avec une gastro-entérite,
comme
par exemple.
Comme une gastro-entérite. Quand on a une inflammation chronique, on va dire que le système s'emballe pour quelqu'un qui n'est pas forcément un pathogène et donc qui restera toujours là. Mmh. Donc l'inflammation va persister, durer, entraîner des lésions.
Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, hein, c'est très caricatural, mais les intestins deviennent un petit peu fous ?
On peut considérer que les intestins
ne reconnaissent
s'emballent.
Plus, quoi.
Je dirais que c'est le système immunitaire qui devient fou. Il y a une hyperactivité du système immunitaire, de certains composants du système immunitaire qui vont entraîner des lésions. Et puis ça va se calmer, puis ça va revenir. On ne sait pas toujours pourquoi, mais on sait de mieux en mieux contrôler l'inflammation et éviter qu'elle ne revienne.
Alors quand un patient arrive avec certains symptômes, le gastro-entérologue, la personne qui va faire l'exploration, va déterminer s'il est plutôt concerné par Crohn ou par la rectocolite hémorragique, la RCH, sur quelle base il va pouvoir distinguer ces deux maladies qui sont deux MIKI ?
Effectivement, les MIKI, c'est assez simple. Il y en a deux, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Il ne vaut pas mieux en avoir une que l'autre, parce qu'elles ont toutes des caractéristiques différentes avec quand même un tronc commun. Ce sont des maladies, on l'a dit, qui surviennent chez les sujets jeunes, qui évoluent par poussées. Et entre les poussées, il y a des phases de rémission qui peuvent être courtes, qui peuvent être très longues, voire durer toute la vie. Voilà. Comment distinguer l'une de l'autre ? En fait, elles sont assez différentes. Mais si on veut être schématique, commençons par la rectocolite hémorragique, parce qu'elle est plus simple, en tout cas plus simple à présenter. La rectocolite hémorragique, c'est une maladie inflammatoire chronique qui ne touche que le rectum et qui peut remonter sur le côlon. Donc le rectum, c'est la région juste au-dessus de l'anus, qui se prolonge par le côlon, sigmoïde, gauche, transverse et droit. La caractéristique de cette maladie, c'est que c'est une maladie de la muqueuse, c'est-à-dire de la paroi intérieure de l'intestin superficielle. Et en fait, les lésions débutent toujours juste au-dessus de l'anus, et comme la muqueuse devient fragile, ça saigne très vite, et les premiers signes sont des saignements, ce qu'on appelle des rectorragies. Parfois, l'impression que le rectum est plein sans qu'il le soit parce qu'il est juste enflammé. Donc, ça donne l'envie d'aller aux toilettes de façon urgente. On y va, il n'y a rien qui vient. Il peut y avoir des glaires, il peut y avoir du sang. C'est ce qu'on appelle le syndrome rectal ou les faux besoins. Quand la maladie est un peu plus étendue, ça peut donner des douleurs abdominales, ça peut donner de la diarrhée, avoir des conséquences sur l'état général. Mais le signal d'alarme, c'est quand même la présence de sang dans les selles.
Et c'est vrai, quand on saigne, on a peur.
Et généralement d'avoir plus de sel. Ce qui veut dire que quand on a ces symptômes, on consulte généralement très vite. Et le patient et le médecin se disent qu'il y a quelque chose, on va faire des examens et le diagnostic peut être rapidement porté.
Sur Crohn.
Pour la maladie de Crohn, c'est différent. Parce que la maladie de Crohn peut toucher n'importe quel segment du tube digestif. On dit classiquement comme ça, depuis la bouche, c'est assez rare la bouche, mais jusqu'à l'anus. Mais en gros, il y a dans le tube digestif, il y a trois grands segments. Il y a l'intestin grêle et dans l'intestin grêle, il y a la partie distale de l'intestin grêle qu'on appelle l'iléon. On va dire, grosso modo, il est touché une fois sur trois de façon isolée. Il y a le côlon, le gros intestin, comme pour la rectocolite hémorragique, on va dire une fois sur trois. Et l'iléon et le côlon également une fois sur trois. C'est schématique, mais pour que nos auditeurs aient les idées claires.
Là, sur les symptômes.
À côté de ça, on peut avoir des lésions un peu plus haut situées. On peut avoir également, presque une fois sur trois, des lésions au niveau de l'anus. Alors, les symptômes, effectivement, les symptômes vont être fonction du segment qui a été atteint. Et surtout, à la différence de la rectocolite hémorragique, qui est une maladie très, très superficielle de la muqueuse, la maladie de Crohn est une maladie de toute la paroi de l'intestin. Ça veut dire que quand il y a l'inflammation, et qu'il y a plusieurs épisodes d'inflammation, au bout du compte, la lumière intestinale va se rétrécir et ça va donner des rétrécissements, donc comme des signes d'occlusion, voire ça va perforer la paroi et donner de la suppuration des abcès. Donc, si c'est l'intestin grêle, généralement, ça va se révéler soit des douleurs abdominales, de la diarrhée. S'il y a un retrécissement, ça va être des signes obstructifs, c'est-à-dire une digestion difficile, des douleurs abdominales, des nausées. Si c'est le côlon, ça peut ressembler à une rectocolite hémorragique. Des fois, on a du mal à faire la différence entre les deux maladies. Si c'est l'anus, si c'est le tube digestif haut, ça va être des manifestations aussi particulières. Mais comme je vous le dis, les manifestations ne sont pas caractéristiques, elles ne sont pas caricaturales et chaque patient a un peu les siennes.
On va dire que vous avez une série de signaux et que vous cochez en fonction de la fréquence ou l'association de ces signaux, on va dire c'est plus ça. C'est un travail d'enquête en quelque sorte.
On peut dire ça, mais l'enquête elle peut se faire assez facilement dès qu'on connaît pour avoir tout de suite un point d'orientation. Mais il y a par exemple des facteurs, et ça il est important d'en parler, puisqu'on a aborder à peine l'environnement, c'est que la rectocolite hémorragique est une maladie du non-fumeur et qui n'a pas eu l'appendicite dans l'enfance. Et ça, c'est des liens très forts. Le non-fumeur ou le fumeur sevré. Il faut savoir que le risque de développer une rectocolite hémorragique quand on a été un gros fumeur et qu'on arrête de fumer est quand même très élevé. Au contraire, la maladie de Crohn est une maladie du fumeur. Et elle est plus fréquente chez les fumeurs. Mais quand on fume et qu'on a une maladie de Crohn, elle est plus grave, elle résiste plus souvent au traitement, elle récidive après la chirurgie, elle est plus évolutive, elle est plus difficile à traiter, elle est plus réfractaire. Donc rien que ça, ça fait déjà une différence et on utilise tout ça. La seule difficulté, c'est quand la maladie touche le côlon entièrement, est-ce que c'est plus l'une que l'autre ? Mais ça ne change pas vraiment la prise en charge.
Professeur Yoram Bounik, tout de suite un témoignage dans Priorité Santé.
J'ai qu'un seul dieu, c'est le vent sur la mer. Plusieurs déesses, la weed et la bière. Quelques hobbies pour passer le temps. Quand je m'ennuie, je m'évade sur de drôles d'instruments. J'aime la banlieue, j'aime le lit des rivières, j'aime voyager. J'ai tout au fond de mon âme une vieille blessure au goût amer.
Ce témoignage, c'est celui de Frédéric Burgière, alias Fredo, le leader du groupe de rock français Les Ogres de Barbac. On entend sa voix, il chante donc, mais aussi il court. Et tout de suite, Fredo répond aux questions d'Assetou Samaké. Fred Burgière, bonjour.
Bonjour.
De quelle maladie souffrez-vous ?
Alors moi, je suis atteint de rectocolite hémorragique, qui est un peu la sœur jumelle de Crohn.
Et quels ont été les premiers signes ?
Les premiers signes, c'est directement du sang dans les selles. Hein. À un moment, on se pose des questions, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis après, pas mal de diarrhées sanglantes. Quoi.
Est-ce que vous avez dit que c'était lié à votre mode de vie d'artiste ?
Complètement, ouais. Je me suis dit, c'est le stress, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans l'alimentation. Puis effectivement, c'est vrai qu'en tournée, on ne mange pas très bien. Donc ça a été ma première démarche, ça, de changer d'alimentation.
Et quand vous avez changé d'alimentation, qu'est-ce que vous avez commencé par quoi ?
Déjà, c'était boire un peu moins, hein, et puis manger mieux, c'est-à-dire varier plus les plats, prendre des légumes de temps en temps, ça fait pas de mal, et puis calmer beaucoup la viande. J'ai divisé par 10 ma consommation de viande.
Et à la suite de ça, vous êtes parti voir votre médecin ?
Oui, parce qu'en fait, ça changeait rien. Et puis, j'allais toujours aussi mal. Et du coup, cette crise durait. Et donc, j'étais à l'hôpital de Pontoise. Et là, ils m'ont diagnostiqué d'abord une maladie de Crohn. Et puis, en fait, ça s'avérait être une RCH.
Et comment vous avez réagi à l'annonce du diagnostic?
J'ai réagi comme je crois que 90% des gens à qui on dit « vous avez cette maladie-là », on rentre à la maison et on va sur Internet.
Est-ce que vous aviez mal partout? Vous étiez très fatigué?
Alors oui, le premier symptôme de cette maladie, c'est d'être très 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 fatigué. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sang qui est perdu. En fait, les intestins ou le côlon se défend en permanence toute la journée. Il se défend comme si des bactéries l'attaquaient tout le temps. Donc on saigne beaucoup et du coup on est très très fatigué. Et ça, c'est vraiment le symptôme. Alors, au-delà de la douleur, il y a cette fatigue aussi.
Vous avez eu combien de crises du coup? Parce qu'on parle en crise.
Alors, on parle en crise. Moi, j'ai eu une ou deux crises par an, des débuts de crise, on va dire, par an. Et ça, j'ai toujours réussi un petit peu à les maîtriser, à les gérer, manger un petit peu moins, et puis beaucoup de repos. Et à chaque fois, en 3-4 jours, j'arrive à résorber la crise. Par contre, sur 20 ans, j'ai eu 4 grosses crises, dont 3 qui m'ont amené à l'hosto sur plusieurs jours, voire semaines.
Est-ce que ces crises vous ont laissé des séquelles?
Psychologique peut-être, parce qu'on n'en sort pas indemne. Et puis, par contre, physique, non, j'ai fait beaucoup. Je me suis remis à fond dans le sport. Je pense que le sport, c'est de dire, on va se surpasser, on va montrer à notre corps qu'il peut être très fort. Et du coup, la course à pied, le vélo, le squash, la natation, tout ça, c'est on sort, on habitue son corps à être fatigué autrement que juste par des saignements. Et puis psychologiquement, on se sent bien, quoi.
Vous avez été entouré par vos proches, par votre groupe?
Oui, énormément entouré. Et ça, c'est la force et la chance que j'ai eue. Moi, je fais une coloscopie par an avec anesthésie générale. Donc, des fois, je passe un jour ou deux à l'hôpital. Et à chaque fois, en salle de réveil, je parle avec des gens qui ont la même maladie que moi, Crohn ou RCH. Et ils me disent, si on n'est pas entouré sur cette maladie, on est complètement isolé, complètement en dépression, en fait.
À partir de quel moment vous vous êtes dit « faut que je médiatise ces maladies invisibles » ?
Alors c'est venu avec la volonté du professeur Allais à Saint-Louis, qui me suit donc sur cette maladie depuis 15 ans, et de faire un protocole en fait, de recherche. Et moi, je n'avais pas trop le temps, mais j'étais un peu gêné parce que, étant sur scène souvent devant du monde, j'en avais quasiment jamais parlé, et pas par tabou, mais parce que j'en avais pas parlé, quoi. Et je me suis dit, je vais me lancer un défi. Je suis parti courir le marathon de New York avec le professeur Allais. On allait faire des petits footings ensemble. Moi, j'ai fait de l'entraînement du renforcement musculaire avec un coach sportif. J'ai fait mon marathon comme une promenade. Je suis arrivé à la fin, j'étais tout joie. Et le soir, on est parti se promener et fêter ça. Donc, vraiment, beaucoup de joie. Mais le plus important pour moi, c'était, au-delà même de récolter des fonds pour l'AFA, c'était de parler de la maladie.
Pendant les 20 ans, il y a eu des moments où vous vous êtes senti seul parce que vous n'aviez pas d'informations, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, c'est ça?
Oui, en fait, c'est très dur. On a des gens qui se soignent avec des médecines parallèles, d'autres qui se soignent avec la médecine traditionnelle, d'autres qui ne soignent pas du tout. Il y a toujours quelqu'un qui a un bon conseil. Tiens, tu devrais boire un petit verre d'huile d'olive tous les matins à jeun. Tiens, tu devrais faire ceci, un jeûne, un cela, etc. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être avec plusieurs personnes pour avoir vraiment tous les avis et être sûr de ce qu'on fait. Parce que je parle même pas de charlatan, hein, mais de conseils comme ça qu'on peut entendre à droite à gauche, ou des gens qui me disent que c'est dans ma tête, que c'est le stress, que c'est ceci, que c'est cela. Quand j'arrive à la fin, au moins c'est posé, c'est scientifique, c'est des expériences, c'est des échanges. Et du coup, je pense que ça fait du bien d'être à peu près sûr de ce qu'on entend, quoi.
Vous êtes devenu le porte-parole de l'AFA dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est l'association François Aupetit. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est ce qui m'a manqué, moi, quand je suis sorti de l'hôpital en 2001. C'est-à-dire que c'est une association, on a du soutien psychologique, on a des réponses à nos questions, on a des aides au niveau de la nutrition, on a des conseils, on a tout ce que je recherchais sur Internet tout seul dans mon coin. Et bien là, c'est plein de gens qui se sont fédérés, qui sont ensemble pour répondre à toutes ces questions. Donc j'invite vraiment les gens qui viennent d'avoir la maladie déclarée, c'est la face, c'est essentiel. Faut y aller direct.
Alors moi, je bouge pas de là, je t'en supplie, je fais plus un geste. Si tu restes, je te dis même pas ce qu'on fera de l'amour. Et pour le reste, même si je vous déteste.
Patient expert et porte-parole donc de l'AFA, Fredo Desorgues de Barbac, avec Assetou Samaké, actuellement en tournée. Il organise avec la mairie de Cergy-Pontoise un marathon musical et solidaire. Ce sera le 8 octobre prochain. Professeur Yoram Bounik, je vous ai vu réagir beaucoup de choses dans cet échange avec Assetou Samaké. Un parcours personnel et puis justement partager cette expérience pour aider les autres aussi, c'est quelque chose d'essentiel.
Moi, je voudrais d'abord féliciter parce que ce témoignage, ce reportage est remarquable. Il est remarquable, il porte sur une longue période de vie, plus de 20 ans de maladie, et pratiquement tous les aspects du parcours du patient avec sa maladie sont abordés. Mmh. Au début, quelques petites crises qu'on gère, l'alimentation, on n'a pas forcément trop de conseils là-dessus. La maladie qu'on cache, ces symptômes qu'on ressent, et puis on ne veut pas se laisser dépasser par la maladie. Et je crois que Fredo, hein, je me permets de l'appeler Fredo, a eu cette force, a trouvé cette force en lui, comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort, ouais. D'aller au-delà des symptômes et a été jusqu'à courir le marathon, faire énormément de choses, ce qui est tout à fait remarquable. Je voudrais juste mettre un bémol, il ne faut pas que les patients qui n'arrivent pas à faire ça se sentent coupables, ouais. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas toujours possible. Mais c'est vrai que cette façon d'aller au-delà, d'aller en avant, est assez remarquable. Il a parlé de la maladie, des symptômes, on en a parlé. L'alimentation, donc il régule lui-même l'alimentation pendant les crises. Et effectivement, je crois que nos patients manquent de conseils diététiques. Mmh. Et il fut une époque où il y avait des régimes qui étaient dits extrêmement restrictifs et on sait que c'est mauvais. En réalité, c'est assez simple. Quand la maladie est stable, on peut manger ce qu'on veut. Quand la maladie est en poussée, on va éviter les résidus, les fibres dures, les fibres longues, parce que ça majore les symptômes digestifs. Mais de plus en plus, maintenant, on sait qu'il y a une alimentation qui est plus ou moins bonne pour l'intestin et une qui est mauvaise. Et si on veut être assez schématique, et c'est à peu près pareil avec quelques petites subtilités entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, mais en fait, il faut une alimentation saine, il faut des fruits, des légumes, de la salade et éventuellement des poissons. Mm. En ce qui concerne la viande, il vaut mieux des viandes blanches que viande rouge. On évite l'excès de viande rouge. Rien n'est interdit, notamment trop frites, trop grillées. Il faut éviter en fait les graisses saturées. Et quelque chose d'extrêmement important, il y a de plus en plus de travaux dessus, il faut des produits frais. Je ne vais pas dire des produits bio, mais il faut des produits frais. Et c'est-à-dire qu'il n'est pas de conservateur, d'édulcorant, d'épaississant.
Tant qu'on peut, le plus frais, le plus maison, voilà, le plus aller voilà. Du marché, on va dire, le produit
exactement.
Du marché.
Exactement. On dit classiquement le marché plutôt que le supermarché. C'est vrai que c'est un coût qui n'est pas forcément le même, mais il y a de plus en plus de travaux qui montrent ça, le produit frais. Vraiment se rapprocher de la réalité à ce moment-là.
Ce qu'on entend vraiment aussi, excusez-moi professeur, c'est qu'il apprend à vivre avec, à gérer, à cohabiter. C'est vrai que pour certains malades, ils disent « quand la maladie me laisse tranquille ». Alors quand elle ne le laisse pas tranquille, il apprend donc à gérer. Et cet apprentissage, et vous en faites vous-même l'expérience, c'est vraiment un travail d'équipe.
L'apprentissage pour vivre avec sa maladie.
Oui.
En fait, il faut. Je crois qu'il est fondamental, notamment lors de l'annonce du diagnostic, d'être entouré. On a des infirmières de coordination et de plus en plus, il y en a en formation, qui va être un nouveau métier, mais qui va changer la vie de nos patients demain. C'est ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée, qui font vraiment le lien, qui peuvent remplacer le médecin, pas complètement. Quand tout va bien, elles font le lien, elles ont plus de temps, elles peuvent apporter toutes les explications et c'est le correspondant direct du patient pour faire le lien. Donc tout ça, l'éducation thérapeutique, c'est relativement récent et ça permet aux patients, en connaissant mieux sa maladie, de mieux comprendre ses symptômes et de mieux les contrôler et avoir aussi, bien sûr, les signaux d'alerte. Ça, c'est vrai pour tout ce qui concerne la maladie, mais c'est également vrai pour l'administration des traitements.
On va en reparler en deuxième partie. On va poursuivre notre échange. Professeur Bounik, justement, on parlera de cette prise en charge, notamment médicamenteuse. On va aussi donner la parole à l'un de vos confrères au Cameroun. Ce sera juste après Irma, avec ce titre « Douala Paris ».
À 5000 bornes plus haut, après le sable et après l'eau, brillaient mes rêves les plus beaux, à 5000 bornes de trop. À 5000 bornes d'ignorance, de guerre et de silence, j'ai cru pouvoir saisir ma chance à 5000 bornes de mon enfance.
Islam, Islam way, all in our way out. Paris ou Douala, à quoi ou Troca, ici ou là-bas, c'est où, chez toi, la scène de Voirie, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa ou Béti ou Bami, ma chambre ou la scène, la joie ou la reine, le roi ou la reine, la foi ou les chaînes, mes peurs ou mes rêves, les corps sous la sève, je me cache, je me lève, je marche ou je crève, je saisis ma chance, j'arrête de penser, mes plaies sont pensées, j'avance en pensée, les frises ta crinière, sors de ta tanière, tu gagnes ou tu perds, sucré ou amer, dis pas ton histoire, du blanc dans ton noir, garde mon regard, faut que tu plaises à tous mes gars, la voix de la bête, de toi dans ma tête, je me noie ou je m'arrête, de finir la fête, ADN oxydé, occident à tuer, par jour ou parler, partir ou rester, chanson ou pora, guitare ou cora, t'es qui tu fais quoi, t'es qui moi je te comprends pas, même au même combat, ici ou là-bas, face B, face A, tu m'aimes, 33. Paris ou Douala, à quoi ou Troca, ici ou là-bas, c'est où, chez toi, la scène de Voirie, Douala ou Paris.
Priorité santé sur RFI à l'occasion de la journée mondiale des Mickey, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, on parle de la RCH, de la maladie de Crohn, toujours en compagnie du chef du service de gastro-entérologie Mickey et conseil donc assistance nutritionnelle à l'hôpital Beaujon, le professeur Yoram Bounik. On parle donc des traitements maintenant, on poursuit notre échange. Les traitements, avec pas mal de nouveautés au cours, on va dire, des dernières décennies, on soigne beaucoup mieux ces maladies. On ne les guérit pas, on a compris, mais on les soigne beaucoup mieux.
Oui, on a effectivement, depuis ce qu'on appelle l'avènement des traitements biologiques, on peut avoir des objectifs thérapeutiques beaucoup plus ambitieux qu'avant. Parce qu'on sait maintenant, pour ces maladies, en réalité, la meilleure façon d'améliorer le pronostic, c'est de, ce qui est assez logique, hein, c'est de cicatriser complètement les lésions, de faire disparaître les ulcérations pour la maladie de Crohn, voire pour la rectocavité hémorragique, que même au microscope, l'histologie soit quasiment normale. Et on sait que lorsqu'on a atteint cet objectif, le patient présente moins de poussées, est moins souvent hospitalisé pour une poussée, est moins souvent opéré, et ça diminue même le risque de complications au long cours, comme le cancer du côlon pour la rectocolite hémorragique. Alors ces traitements permettent de mieux atteindre ces objectifs parce qu'ils ont cette capacité à cicatriser la muqueuse de l'intestin. Donc il y a différentes familles de traitements. Et c'est vrai que la recherche est de plus en plus active parce que le problème qui se pose, c'est que ces traitements marchent souvent un temps. Il faut parfois les optimiser, c'est-à-dire modifier les conditions d'utilisation en augmentant la dose, en rapprochant la fréquence ou autre. Mais il arrive, et c'est quand même un nombre de cas assez important, que ces traitements fonctionnent quelques mois ou années et qu'il faille ensuite changer. D'où l'importance d'avoir d'autres cartouches, des médicaments qui vont agir par un mode d'action différent et qui vont permettre de contrôler l'inflammation alors que les précédents médicaments ne le pouvaient pas.
Il y a un élément important sur lequel vous vouliez revenir, c'est, on l'a entendu tout à l'heure dans l'entretien avec le chanteur des Ogres de Barbac, la notion de fatigue. Pourquoi certaines personnes qui, justement, sont des patients Mickey sont si fatigués par les poussées lors de la maladie?
Ben justement, c'est un grand mystère et ça a été très bien dit puisqu'on voit que c'est un sportif qui a l'impression qui est assez impressionnant dans ce qu'il fait et raconte, il décrit bien ces épisodes de fatigue. Alors, on n'a pas vraiment... Alors, lors des poussées, généralement, on est fatigué. Mais certains patients sont en rémission et reste fatigué. Alors la fatigue, c'est très difficile à appréhender parce que c'est assez subjectif comme symptôme. On ne peut pas le mesurer sur une prise de sang. Et c'est quelque chose qui revient, mais qui s'améliore globalement avec le temps, avec le contrôle de la maladie. Et je trouve que cette fatigue n'est pas assez souvent abordée parce qu'elle peut contribuer à cette façon de se replier sur soi de la maladie. Et je pense que c'est ce qu'il faut éviter, quoi.
Alors, il y a les poussées, il y a les crises. Dans certains cas, la chirurgie est recommandée. Dans quel cas, précisément?
Alors, la chirurgie, ce n'est pas exactement la même au cours de la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Au cours de la rectocolite hémorragique, en gros, c'est fait dans une situation d'urgence où on n'arrive pas à contrôler les symptômes et il y a ce qu'on dit un risque vital. Et on dit qu'il vaut mieux sauver la vie que le côlon, puisque l'intervention consiste à enlever le côlon avec ou sans le rectum en un ou deux temps. Mais ça, c'est la première situation. Et avec les traitements, les nouveaux traitements qu'on a, ça a tendance à être un petit peu moins fréquent. Et la deuxième situation où on envisage d'enlever le côlon au cours de la rectocolite hémorragique, c'est quand il y a une complication, notamment un cancer. La particularité, c'est que l'inflammation chronique entraîne une modification des cellules qui deviennent tumorales et que c'est souvent multifocal. Donc ça ne sert à rien d'enlever un segment du côlon, et globalement, pour protéger, il faut enlever l'ensemble.
Alors, sur ce volet spécifique du recours à la chirurgie, il y a une question Facebook d'une auditrice, c'est Mariam. Elle est infirmière, elle réside en France, et elle explique dans son message que son cousin, lui, a la maladie de Crohn, justement. Il a été diagnostiqué il y a 7 ans. Suite à une poussée, lors de l'hospitalisation, les chirurgiens lui ont recommandé une colostomie. Il a dit non. D'après Mariam, il est dans le déni, il ne veut même pas en parler. Alors elle se demande comment est-ce qu'il pourrait l'accepter. Puis Mariam explique aussi que dans sa pratique, elle a pu constater que beaucoup de patients africains, comme son cousin, refusent la chirurgie. Ils ont honte. Ils disent que ce n'est pas naturel. Comment est-ce que vous réagissez? Peut-être une première chose sur le terme de colostomie. Qu'est-ce que c'est?
C'est-à-dire, c'est une poche, c'est un anus artificiel. On prend le côlon et on le met directement à la peau. Au cours de la maladie de Crohn, puisque c'est ce dont il est atteint, donc il y a différents types de chirurgie. En général, la colostomie, c'est quand il y a des lésions au niveau de l'anus qu'on n'arrive absolument pas à contrôler, le plus souvent pour dériver. Et il faut savoir qu'il y a colostomie ou iléostomie, c'est-à-dire quand si c'est l'intestin grêle ou le gros intestin, le côlon qu'on met à la peau, ça dépend des situations. Et il y a surtout l'atteinte... la stomie qui est provisoire, et quand on opère notamment pour une maladie de Crohn, lorsque c'est en urgence où il y a des risques de complications importants, on préfère mettre une stomie, mais pour quelques semaines, en général 6 semaines, pour laisser reposer l'intestin et diminuer le risque de complications après intervention. Et il y a la stomie définitive. La stomie définitive, effectivement, ça peut paraître contre nature, mais je dirais c'est absolument pas plus pour un Africain qu'un Caucasien ou un Asiatique, parce qu'on a les expériences de partout. C'est bien entendu, c'est toujours traumatisant, ça joue sur l'image corporelle. On a des patients qui refusent des années. Alors il y a énormément d'avantages à ce type d'intervention parce que c'est ce qui met le plus à l'abri de la rechute, qui permet le mieux de contrôler la maladie, qui permet de retrouver sa force, son énergie, de s'alimenter normalement, même si ça ne guérit pas toujours, malheureusement. Mais bien entendu, il y a l'image corporelle et notamment, enfin, chez des personnes jeunes ou âgées, je pense que dans toutes les situations, c'est assez traumatisant. Et c'est là où, en fait, on a tendance en général à faire se rencontrer des patients qui sont déjà passés par là. Les associations de patients comme l'AFA peuvent aider, ou alors les patients, les propres patients qu'on a connus et qui sont prêts à aider. Parce que dans ces maladies, il y a quand même une grande solidarité entre les patients. Notamment du fait que c'est des maladies invisibles et ils doivent partager beaucoup de problématiques, de préoccupations, de questionnements en commun. Donc on discute et ça c'est quelque chose qui aide parce que les patients qui sont passés par là, très souvent le recommandent, mais on ne sélectionne pas les patients, on essaie de montrer vraiment la réalité, les bons cas et les mauvais cas, mais c'est assez compliqué et je dirais qu'il y a souvent un facteur clé dans ces décisions quand c'est le cas. C'est malheureusement rarement le cas quand c'est un enfant, mais si une décision de ce type peut être prise en couple, c'est-à-dire dans une famille installée, et la décision, le patient, son entourage font partie prenante de la décision. Ça, c'est fondamental dans la prise en charge de ces maladies. C'est ce qu'on appelle en anglais, pour le patient, l'empowerment. Il doit être au centre de la prise en charge. C'est très important d'expliquer toutes les possibilités thérapeutiques, de dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Des fois, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors la chirurgie, voire la stomie définitive. Mais le patient doit toujours ressentir, doit toujours pouvoir s'exprimer, dire tout ce qu'il ressent. Et c'est à partir de cet échange, en général, en tout cas dans ma pratique, on arrive à faire avancer. J'ai récemment une patiente, sans faire d'histoire particulière, ça faisait 10 ans que je me battais parce que je considérais que sa vie était terrible, mais elle refusait pour cette même question. Et elle m'a envoyé il y a quelques semaines un message de remerciement de pas d'avoir continué à exercer cette pression parce qu'elle se sentait enfin libérée, revivre.
Vous l'avez convaincue. Revivre. Vous l'avez
convaincue. Ouais, et ça, c'est extrêmement important parce que c'est parfois dans certaines situations le sentiment qu'ont ces patients.
Professeur Bounik, on va partir tout de suite pour le Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
On vous retrouve en ligne, professeur Christian Dzeton, bonjour.
Oui, bonjour madame et bonjour aux chers confrères que je connais pas, mais bon...
Vous le suivez depuis le début de Priorité Santé de cette émission. Gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala. Vous êtes aussi président d'honneur de la Société camerounaise de gastro-entérologie. Tout à l'heure, en début d'émission, on a bien compris avec le professeur Bouni qu'il l'a dit clairement que c'était aussi ces Miki des maladies, on va dire, des pays du Nord, des pays riches, des pays industrialisés. Précisément, professeur, est-ce que ces Miki... On en parle. Est-ce qu'elles sont connues par le grand public au Cameroun? Je pose une double question, en fait. Connues par le grand public, mais aussi connues par les soignants.
Alors, le grand public, c'est pratiquement pas connu. Mm-hmm. Et au niveau des soignants, nous essayons d'inculquer ces notions aux futurs médecins en faculté, parce que c'est une maladie, ce sont des maladies extrêmement rares en Afrique, mais de temps en temps, on a quelques cas. Il faudrait donc que nos jeunes médecins pas capable de pouvoir identifier ces maladies et pouvoir les soigner. Alors, nous, la rareté, ça ne s'explique pas. Chacun des gastro du Cameroun et même de l'Afrique subsaharienne ont quelques rares cas. De temps en temps, c'est plus souvent des RCH que des Crohn d'ailleurs. Et le problème principal, c'est que le diagnostic nous pose des problèmes parce que très longtemps, ces malades sont soignés pour des entérocolites non spécifiques. En fait, nous avons des problèmes d'identification par nos anatomopathologistes. Donc, c'est devant l'échec des médicaments proposés, en pensant que c'est des colites parasitaires, qu'on répète des biopsies et finalement, même en demandant des experts à l'étranger, qui nous font le diagnostic à ce moment-là, dès qu'on met le traitement spécifique, ça marche. Alors, en particulier, vous savez que les amibiases chroniques peuvent simuler la RCH dans beaucoup de cas. Mmh. Et à cette occasion, avec la Société Royale Belge, il y a quelques années, nous avons essayé de voir s'il y a une filiation entre l'amibiase et la RCH, mais ça n'avait pas été concluant. Donc, voilà le principal problème ici en Afrique. Alors, le fait que ce ne soit pas connu, bien sûr, on a des problèmes pour les nos rares cas de trouver des médicaments.
Alors justement, vous disiez, il y a cette errance diagnostique. Ensuite, quand on a finalement la chance de tomber sur le bon diagnostic, il y a le traitement. Qu'est-ce qui est disponible, professeur Dzedon, dans le contexte du Cameroun?
Alors, ce que nous trouvons facilement et qui nous donne quand même de bons résultats, c'est la mésalanine que nous avons ici sous la forme de Pentaza, qui donne des rémissions parfois assez spectaculaires, si bien que, en général, après quelques années, nous perdons de vue des malades, en fait, parce qu'ils vont bien. Bon, la salazopyrine peut être aussi disponible, mais nous l'utilisons beaucoup moins. Alors, les médicaments plus récents, comme les anti-TNF, c'est exceptionnel qu'on puisse les avoir parce que ce n'est pas disponible, le coût est élevé, il faut importer en direct et ça multiplie les prix et tout ça. Bon, nous avons eu quelques cas de malades qu'on a pu mettre sous Remicade, par exemple. Bon, ça avait donné de bons résultats, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, surtout la mésalanine, le Pentaza, ça c'est le médicament qu'on trouve facilement ici et qui nous donne de bons résultats, qui sont si spectaculaires que, comme je vous dis, les malades, pendant des années, ont pris des anti-amibiens et tout ça pour des diagnostics qui ne sont pas exacts. Et puis, brusquement, on leur met le bon traitement. Et puis, c'est comme un miracle. Et c'est assez spectaculaire, ça.
Mais ça doit être quand même un traitement qui est assez onéreux, parce que même dans un pays comme la France, ce sont des médicaments qui coûtent assez cher. Est-ce que c'est vraiment accessible dans un contexte comme le vôtre, on le sait, où il n'y a pas de remboursement des frais de santé?
Ça, c'est sûr. Ça, c'est une bonne question, madame. Parce que même le Pentaza, dont je dis que c'est facilement disponible, c'est quand même un coût élevé. Ouais. Mais la plupart de nos malades arrivent à s'en procurer. Mmh. Et donc, ça leur donne des résultats. Bon, la salazopyrine est plus abordable, mais on est un petit peu plus déçu dans les résultats avec la salazo qu'avec le Pentaza. D'où notre préférence pour essayer de convaincre le malade de se procurer du Pentaza. Et à ce moment-là, ça peut aller, quoi. Mais... voilà les principaux problèmes que nous avons. Alors, je profite du fait que le professeur, le collègue, a parlé des difficultés de colostomie en Afrique. C'est bien d'aborder ça parce qu'il y a plein de maladies pour lesquelles ça va se terminer par une colostomie, notamment les cancers de rectum et tout ça. Et nous avons ce problème-là. La plupart des malades, nous les perdons parce que quand on est obligé de leur mettre une colostomie, la suite de leur vie est perturbée, ils ne sortent plus et tout ça, et ça pose des problèmes. Il y a un gros travail à faire pour essayer de convaincre les malades que c'est une solution et qu'ils doivent mener une vie normale, ne serait-ce que pour changer leur poche, ça coûte cher et tout ça. Bon, ça, c'est un gros travail qu'il faut faire, non seulement pour les RCH, que nous n'opérons pas beaucoup. Nos cas sont rares, souvent, c'est pas gravissime, Mais il pourrait arriver qu'on soit obligé de les opérer, mais j'insiste que pour les autres maladies où on est obligé de faire iliostomie ou colostomie, ça nous pose des problèmes. Donc c'est très bien d'en avoir parlé aujourd'hui.
Et en termes de conseils diététiques alimentaires, est-ce qu'il y a systématiquement un accompagnement ? Dans la cuisine camerounaise, il y a des éléments extrêmement fibreux hein, dans les préparations. On pense aussi à tout ce qui relève des aliments avec du piment, les sauces relevées ou des sauces très grasses avec l'huile de palme notamment. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers ?
Alors, les conseils que nous donnons habituellement, c'est un peu d'avoir une alimentation beaucoup plus assainie et d'éliminer justement tout ce que vous venez de citer là. Mais nous n'avons pas des preuves concrètes de la nocivité de tout ce qu'on a cité là. Mais par défaut, on essaie de les éliminer. Vous savez que pendant des années, on s'est demandé si les quelques cas que nous voyons peuvent être en rapport avec des changements d'alimentation par rapport à l'Occident. Alors on a essayé de comparer les gens qui ont vécu en Europe et qui sont revenus ici. Est-ce que le fait de changer d'alimentation peut ramener ? Ou bien ceux qui sont ici et qui vont en Europe, est-ce que le changement d'alimentation peut être en faveur d'acquisition des Mickey ? Ben, nous n'avons pas de réponse pour l'instant. Les régimes, oui, comme on fait dans toutes les maladies, mais sans preuve spécifique qu'il faut éliminer ceci. Nous nous basons sur les régimes qu'on met en Europe et on essaie d'appliquer ici.
On observe et on compare. Merci beaucoup, professeur Tzeton. Professeur Yoram Bounik, par rapport à ce qui vient d'être dit, évidemment, conditions d'accès très différentes au traitement, mais c'est vrai que jusqu'à présent, l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas vraiment un territoire forcément concerné au premier chef par rapport à d'autres terres par les Mickey.
Oui, tout à fait. D'abord, je salue mon collègue. Bonjour, je serais ravi de vous rencontrer. Et les points qu'il a soulevés sont terrible parce qu'il montre vraiment la différence des systèmes. On n'en a pas de conscience, en fait, ici. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, l'ensemble des études montrent que les populations, en tout cas d'Afrique subsaharienne, du fait des maladies infectieuses qui sont souvent à l'état épidémique, ça protège des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Les Mickey, c'est, vous l'avez dit, des maladies des pays riches. Les maladies des pays riches, malheureusement, au Cameroun, on n'est pas riche. Et pourquoi ? Il y a des cartes du monde, par exemple, qui montrent que là où il y a du paludisme, là où il y a d'autres maladies parasitaires, ben, il n'y a quasiment pas de Mickey. On croyait que c'était parce qu'on ne les diagnostiquait pas, on a fait des études. En fait, il y en a moins. Mais peut-être qu'avec l'avancée, il y en aura plus. Et des pays de niveau de richesse intermédiaire voient... augmente. Avant, c'était vraiment cantonné à l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord. Et si on prend maintenant l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, on voit que l'incidence de ces maladies augmente avec la richesse, enfin l'occidentalisation du mode de vie. Donc aujourd'hui, ça n'est pas un problème, sauf pour les rares patients qui en sont atteints. Et ça, c'est terrible. On entend les difficultés. Mais l'infection, c'est vrai, protège. Comme si le fait que le système immunitaire a directement, depuis l'enfance, depuis la petite enfance, a travaillé contre les... Et il ne se dérègle pas comme il se dérègle dans les pays occidentaux. Chez ceux qui n'ont pas eu d'infection dans l'enfance, c'est un peu la théorie de l'hygiène qui est l'une des théories majeures pour expliquer l'augmentation de ces maladies.
On pourra encore échanger pendant des heures, professeur Yoram Bounik, avec nous. Tellement de choses à dire, notamment sur les tabous. Ce sera peut-être le thème de notre prochaine émission consacrée au Mickey. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Et dans Priorité Santé, c'est le moment de retrouver le docteur Catherine Solano. Bonjour Catherine.
Bonjour Caroline.
Sexologue, et vous allez nous parler aujourd'hui de ce que l'on appelle la pompe à érection ou vacuum. Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, il s'agit de quelque chose dont j'ai envie de vous parler parce que dernièrement, un patient m'a demandé « Que pensez-vous de la pompe à érection ?» Et il a ajouté « Si je vous pose la question, c'est parce que je me demande s'il s'agit ou non d'une arnaque. »
Alors, quel est votre avis, Catherine ?
Eh bien, ce n'est pas du tout une arnaque. La pompe à érection, c'est un ustensile qui est destiné à provoquer des érections et c'est très efficace. Alors, bien sûr, un homme va s'en servir s'il n'a pas d'érection qui fonctionne naturellement, sinon ça ne sert à rien. Et par exemple, c'est souvent utilisé chez les hommes qui ont été opérés ou soignés d'un cancer de la prostate parce que ça entraîne souvent des difficultés d'érection. C'est aussi utilisé chez des hommes qui ont un diabète depuis longtemps et chez qui les médicaments en comprimé comme le Viagra ou autre sont devenus inefficaces au fil des années. Donc c'est quand même très utile pour certains hommes.
Alors pourquoi certains hommes, docteur Solano, pourquoi certains se méfient ?
Oui, voilà comme mon patient qui me dit est-ce que c'est une arnaque ? Eh bien la première raison, c'est que les fabricants de vacuum ou de pompes à érection, en tout cas certains, les vendent en disant ça va vous faire augmenter la taille du pénis. Alors, on sait que Bizarrement, beaucoup d'hommes rêvent d'augmenter la taille de leur pénis. Et clairement, ça, c'est une arnaque parce que les vacuums, OK, ça fonctionne très bien, ça provoque une érection de manière très fiable, mais ça ne fait pas du tout augmenter la taille du pénis. En tout cas, pas plus qu'une érection. Et la deuxième raison, c'est qu'il existe beaucoup de sortes de vacuums. Il y a beaucoup de fabricants, comme c'est un sujet qui intéresse les hommes. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y en a qui sont pas chers du tout, mais ils sont totalement inefficaces, ils fonctionnent pas. Du coup, il y a des hommes très déçus qui disent c'est vraiment une arnaque, c'est ustensile, alors qu'en fait ça fonctionne très bien quand on en achète un de qualité.
Et quand on suit le bon mode d'emploi. Alors exactement. Comment ça marche, docteur Solano?
Alors comment ça marche? En fait, ça utilise le principe de l'effet ventouse. On place un tube autour de la verge contre le pubis et à l'intérieur de ce tube, on fait le vide à l'aide d'une pompe, d'où le nom pompe à érection. Donc ça crée une dépression et ça aspire en quelque sorte, ça entraîne un afflux de sang dans le pénis et ça déclenche une érection. Et donc on utilise, comme je disais, ce système après un cancer de la prostate, pas forcément pour avoir une érection qui permet un rapport sexuel, mais aussi pour conserver l'élasticité des corps érectiles, parce que souvent ça met 1 ou 2 ans à revenir, les érections spontanées. Donc, alors si on veut avoir un rapport sexuel avec ce principe, on provoque une érection et ensuite, évidemment, il faut enlever le tube qui sert. Et le problème, c'est que si vous l'enlevez, ben, la ventouse n'agit plus, l'érection s'en va. Donc, il faut une technique supplémentaire pour conserver l'érection.
Et vous allez nous dire laquelle?
Voilà. Alors, ça, pour avoir un rapport sexuel, il faut utiliser un anneau que quand on enlève le tube, on place l'anneau à la base du pénis, contre le pubis en fait, et ça fait un effet garrot, un petit peu comme si vous serrez votre poignet, un peu comme les garrots qu'on vous met pour faire une prise de sang. Hein. Et donc, quand je vous explique ça, ça peut paraître compliqué.
Oui, comme mais système. D'accord, ça peut être
mais embrouillé. Moi, je trouve ça génial, je vais vous dire, hein, franchement. Parce que, alors, il y a une habitude à prendre. Hein. C'est un peu compliqué, il faut s'entraîner tout seul avant, il ne faut pas arriver avec sa femme et dire, attends, j'ouvre le
pour mode d'emploi. La notice.
C'est un peu comme le préservatif, la première fois, il vaut mieux s'entraîner tout seul. Mais quand on est habitué, c'est simple. Et moi, je trouve ça bien parce que l'alternative, si vous voulez, c'est les piquures dans le pénis pour provoquer une érection.
Oui, on a compris. Et donc, vaut mieux lire le mode d'emploi.
Hein. Voilà, c'est pas médicamenteux, c'est mécanique, il n'y a pas beaucoup de dangers. Donc, et en fait, quasiment tous les hommes savent conduire une voiture. Tous peuvent arriver à se servir d'un vacuum, vous voyez.
Quelle image. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui utilisent ce dispositif.
Eh bien, pas tant que ça. C'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que, vous voyez, je me rappelle de 2 hommes, parce que j'ai fait des essais de vacuum à l'hôpital, parce que comme ça coûte quand même, c'est un investissement, disons, ça coûte au moins 100 euros, je dirais, en euros, hein, plutôt 150, 200, voire plus. Et donc, je faisais des essais, et un homme de 68 ans me dit, mais j'ai ressenti une joie incroyable à retrouver mon érection et je me suis sentie un homme. Il avait eu un cancer de la prostate. Et un jeune homme, très jeune, hein, qui avait une 30aine d'années, diabétique depuis très longtemps, depuis son enfance, n'a rien dit, mais quand j'ai vu son sourire, je me suis dit, bon, ça vaut le coup, vous voyez.
Alors, des précautions peut-être, des précautions à prendre avec ce type Alors, d'instrument?
Alors, il y a une précaution. Quand on utilise le vacuum et qu'on a mis un anneau, eh bien, il ne faut pas s'endormir avec, parce que ça fait garrot. Il faut le garder maximum 30 minutes. Donc, c'est le temps d'avoir quand même un rapport sexuel suffisamment long, 30 minutes, voilà.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Et on vous retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Et demain, émission Questions de femmes, on va parler des complexes physiques, les comprendre, les déconstruire et les surmonter. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sonoubank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.